Bintiminoudi, l'émission politique d'RCFM, Patrick Vinciguerre.
Bienvenue dans ce nouveau numéro de Bintiminoudi, avec ce soir comme invité Julien Morganti. Une semaine après avoir reçu Pierre Saville, le maire de Bastia, la parole est à l'opposition, en tout cas une partie de cette opposition. Julien Morganti, bonsoir.
Bonsoir.
Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes donc conseiller municipal d'opposition à la mairie de Bastia, également vice-président de la CAB. Au menu de ce Bintiminoudi, votre regard sur la mandature nationaliste, vos ambitions, serez-vous candidat au municipal de 2020? Nous ouvrirons également en fin d'émission une page nationale à l'avant-veille du mouvement des Gilets jaunes. Le comprenez-vous, vous le macroniste? Mais avant, Julien Morganti, il focus sur un outil, la communauté d'agglomération de Bastia, la CAB, dont vous êtes vice-président en charge du développement numérique et dont votre ami, votre mentor, François Tati, est le président. La CAB joue-t-elle pleinement son rôle? C'est le dossier de cette semaine réalisé avec l'aide précieuse d'Alexandre Sanguinetti.
Bintiminoudi, le dossier.
Bastia, Furiani, Bili-Bedrabougne, Santa Maria di Lode et San Martino di Lode, cinq communes pour au total un peu plus de 58 000 habitants constituent la communauté d'agglomération de Bastia, née au tout début des années 2000. François Tati, le leader du MCD, en est le président depuis 2014. C'est le fruit d'un accord résultant de son alliance éphémère avec Gilles Simeone. La rupture entre les deux hommes paralysera un temps son fonctionnement. Qu'en est-il aujourd'hui? Ça va mieux. Dans l'ensemble, la CAB joue son rôle du mieux possible, assure Louis Pozzo di Borgo, l'un des vice-présidents, premier adjoint au maire de Furiani et par ailleurs conseiller territorial Femmoagursiga.
La CAB a connu quelques soubresauts il y a quelques années, on ne va pas revenir sur cette histoire récente. Elle fonctionne mieux, au gré, je dirais, des nouveaux textes de loi, des nouvelles compétences qui sont données à la communauté d'agglomération. Il faut faire évoluer, bien entendu, je dirais, nos services, monter en gamme, faire monter les services en charge aussi de travail. Mais très sincèrement, dans l'ensemble, je pense qu'on est sur la bonne voie. Les communes aujourd'hui sont pleinement impliquées dans la CAB et c'est l'intérêt collectif qui doit primer avant les intérêts individuels.
Un bémol tout de même du côté de Michel Rossi, premier vice-président et maire de Bili-Bedrabougne. La CAB, selon lui, n'est pas assez présente sur le terrain économique, le développement économique qui est pourtant l'une de ses principales compétences, avec entre autres les déchets ou encore les transports en commun. Michel Rossi.
S'il y a un domaine pour moi, personnellement, qui ne répond pas pleinement à mes attentes, c'est le domaine économique, dans lequel la CAB devrait jouer un rôle un peu plus important. Ensuite, pour tout ce qui concerne les réflexions portant sur les transports urbains, sur tout ce qui est l'eau et l'assainissement, disons qu'on s'est emparé des compétences et on les assume de manière normale, sans faire de choses extraordinaires.
Beaucoup plus sévère, le communiste Francis Riolacci, conseiller communautaire d'opposition, il affirme que la CAB n'a pas les moyens de ses compétences, qui sont pourtant larges, et surtout, dit-il, les communes ne jouent pas le jeu.
La CAB n'a pas les moyens de développer de façon plus dynamique. La CAB dispose de compétences fondamentales pour le développement du territoire, mais les communes persistent dans leur attitude de ne pas lui rendre toutes les marges financières qu'elle est en droit de disposer. Je dirais que les communes aujourd'hui paralysent la CAB. Il y a surtout du double langage.
Bintiminoudi, Patrick Vinciguerre.
Avec Julien Morganti, conseiller municipal d'opposition à la mairie de Bastia, mais également vice-président de la CAB et très proche de son président François Tati. Julien Morganti, alors la communauté d'agglomération de Bastia joue-t-elle pleinement son rôle ou est-elle paralysée comme laisse entendre Francis Riolacci?
Effectivement, on a connu des difficultés en 2016, mais après, on a considéré dans le cadre d'un accord de gestion que l'intérêt collectif passait avant des considérations politiques, et on peut dire qu'on est dans une mandature qui aura donné une vraie dimension communautaire. On est dans une cohabitation fructueuse, et effectivement, malgré les problèmes financiers, le bilan est là, et on n'a pas à rougir de nos compétences, même sur le quotidien.
Vous vous trouvez dans une cohabitation, une situation assez paradoxale, puisque vous êtes au pouvoir, et en même temps minoritaire. Quand je dis « vous », c'est avec François Tati.
Justement, je pense que c'est simple, parce que c'était le résultat des élections, et en même temps, cet équilibre fait qu'il y a un contre-pouvoir, il y a un exécutif, il y a une assemblée délibérante, et je trouve que dans l'intérêt communautaire, c'est la première fois que dans cette CAB, il y a eu cette volonté de faire travailler l'ensemble des communes. Donc je pense que c'est sain, et on travaille bien.
Tout le monde, toutes les communes tirent dans le même sens. La rupture avec Gilles Simeone n'a pas laissé de traces ?
On a l'obligation pour le territoire d'avoir une vision d'ensemble, d'un projet stratégique. L'enjeu de la prochaine mandature, c'est de faire le Grand Bastia, d'être dans une entente bastiaise avec les autres agglomérations, les autres intercommunalités.
Comment aujourd'hui ça fait longtemps qu'on en parle.
Comment parler aujourd'hui de transport sans parler à la Marane? Comment parler de tourisme sans parler à Saint-Florent? Ça, c'est une ambition. Et ça sera le projet de la prochaine mandature, parce qu'on est condamné et obligé, et moi, ça me réjouit, d'être dans une logique de Grand Bastia. C'est le quotidien des Bastiais.
Vous en discutez avec le maire de Bigouille, à Sauveur, Gondolfo Huchette, ou encore la maire de Borg, à Noiry-Natagne?
Oui, effectivement, on a décidé de commencer à travailler sur des aspects techniques, c'est-à-dire qu'on a des réunions notamment sur l'eau, sur les transports, sur les déchets. On est obligé et condamné à être sur un territoire pertinent, c'est-à-dire c'est le territoire du quotidien. Donc au lieu de passer sur l'échelon politique, on a décidé de faire l'échelon pragmatique, c'est-à-dire les compétences.
Donc ce n'est plus une chimère?
Non, ça va prochainement, et en tous les cas j'espère, devenir une réalité.
Alors sur le fond et dans le cadre actuel, autour de 11 millions d'euros, c'est le budget investissement de la CAB. Avec ça on peut faire beaucoup de choses? On peut développer une région avec seulement 11 millions d'euros, c'est pas grand-chose. C'est un peu moins que la seule commune de Bastia.
Oui, parce que c'est une question de volonté, d'ambition, c'est pas que des moyens. Et moi, dans l'action publique que je conçois, on doit être un facilitateur. Notamment, par exemple, en matière de transport, on va développer de manière très concrète, et c'est pas une question de coût, la numérisation de l'ensemble du réseau. Donc on va réfléchir à dynamiser les différents quartiers, à les reconnecter. Sur la question économique, c'est aussi au monde privé de s'emparer de cette compétence. Donc, ce n'est pas qu'une question de moyens, c'est aussi une question de volonté.
Qui s'occupe du développement économique, c'est Pierre-Noël Luigi d'Oscaro, qui a des problèmes en ce moment. Vous le voyez souvent à la CAB?
Rarement.
Et bien, ce sera la conclusion de cette première partie.
20 minutes, l'émission politique.
Venons-en à présent, Julia Morgan, à Bastia, à la mairie. C'est là, mais peut-être me démentirez-vous, que se concentrent vos ambitions. Vous êtes jeune, 33 ans, mais vous êtes conseiller municipal depuis 10 ans, longtemps dans la majorité, puis dans l'opposition, depuis 2015. Vous allez bientôt publier un livre pour dire tout l'amour que vous portez à votre ville, Bastia, une sorte de livre-programme. Alors je vous pose la question directement, serez-vous candidat au municipal de 2020 à Bastia?
Déjà, il y a la question de l'engagement, de l'envie, de la motivation. Je pense que c'est dans un moment où Bastia est déclassé, c'est important de réaffirmer certaines valeurs, certains principes. Et au-delà de cette passion qui m'anime, c'est le moment de poser une vision, une stratégie. Et sur la question de l'engagement, oui, je suis en campagne. Parce qu'entrer en campagne, c'est quoi? C'est expliquer, c'est débattre, c'est proposer. Après, la question de la place, ça se verra dans une stratégie globale. Moi, je souhaite que, à la veille de ces échéances, on ait une vision, une stratégie sur le cycle qui va s'entamer, c'est-à-dire 2020, la mairie, 2021, la région, 2022, la députation. Il faut qu'on offre une alternative crédible, cohérente. Il faut que l'opposition s'inscrive dans un temps long pour qu'on soit crédible.
Tête de liste ou pas, ce n'est pas encore décidé. Ce
n'est pas le sujet même.
Pourquoi? C'est important, l'incarnation.
Bien sûr, mais justement,
de l'alternative,
d'abord, on travaille sur le projet. D'abord, on travaille sur cette stratégie, parce que l'idée maintenant, c'est de profiler. C'est-à-dire, c'est qu'une personne doit correspondre à un mandat. Et moi, d'ailleurs, je fais un appel ce soir à tous ceux qui ont envie d'avoir un autre Bastia, un Bastia beaucoup plus ambitieux, beaucoup plus fier, de nous rejoindre. Et si le programme est validé, le projet, la méthode aussi, quelque part, les candidatures, elles viendront naturellement.
Avec François Tatte, évidemment.
Avec tous ceux qui ont envie.
François Tatte, vous êtes très proche de François Tatte. N'êtes-vous pas sa doublure? Est-ce que vous n'avez pas envie, vous êtes jeune, hein, de vous émanciper?
Vous savez, l'émancipation, elle est sur des idées, elle est au quotidien, elle n'est pas dans l'ombre de quelqu'un. Je n'ai jamais fait de politique, je n'ai pas de parrain en politique, et je pense que c'est sain. Moi, je suis libre. Et je l'ai prouvé dans mes choix. Quand il a fallu incarner le renouvellement, je l'ai accepté. Quand il a fallu aussi marquer des ruptures politiques en 2015, je les assumais, parce que parfois, la rupture, elle est saine et elle est porteuse.
Alors, vous êtes jeune, je l'ai dit, hein, 33 ans, mais vous êtes un conseiller municipal depuis 2008, donc plus de 10 ans. Tout d'abord, vous avez été avec Émile Soucarelli, puis avec François Tatte, avant de rejoindre avec lui Gilles Simeone, et puis toujours avec François Tatte, et de rompre un parcours pour le moins sinueux. Et au final, une image de Rastignac, hein, de jeune loup aux dents longues. Comment vous en défaire?
Si j'avais les dents longues, j'aurais fait d'autres choix. justement, j'ai fait des choix par conviction, par passion, et je pense qu'il faut qu'on s'inscrive dans un renouvellement, dans le cadre de l'opposition, sur les méthodes, sur les usages, sur les visages, et le parcours que j'ai, moi j'en suis fier, parce que quand je suis dans la rue, je regarde les gens à la tête haute, parce que j'ai un parcours qui fait que moi je suis au travail.
Certains ont du mal à vous suivre pourtant.
C'est très cohérent. Par le travail, on arrive à suivre.
Quelle cohérence entre Émile Tsoukaré, les Gilles Simeone, 6 ans, 7 ans après?
Parce que 2014, à un moment donné, c'était l'espoir du changement. Et moi, j'ai assumé cette union. Mais à un moment donné, quand d'autres ont eu des ambitions personnelles et que Bastia n'a plus été au centre, on a marqué cette rupture. Et moi, je l'assume, cette rupture, j'assume ces choix. Mais dans la rue, personne ne parle de 2014. Et j'espère que 2020 ne sera pas la répétition de 2014. Les Bastiais méritent mieux et attendent ce changement.
Avec le recul, on parle toujours de politique, là. Avec le recul, regrettez-vous de vous être présenté aux législatives dans la première circonscription Haute-Corse en 2017? Vous avez fait autour de 2300 voix. Et surtout, beaucoup vous accusent d'avoir fait perdre François Hollande, qui lui avait l'investiture La République En Marche, que vous revendiquiez également, mais que vous n'avez pas eu.
J'ai toujours considéré que la question de l'investiture n'était pas une fin en soi. Donc moi, j'étais animé par des convictions. Donc je suis allé au bout de ces convictions, justement, par rapport à la question de la cohérence. Et non, je suis fier de ce parcours parce que peut-être les Bastiais ont eu une autre image de moi. Je me suis émancipé. Et ça sera l'occasion de l'évoquer dans le livre que je sortirai à la fin du mois. La législative, ça a été une révélation pour moi, pour aller au contact des gens, mais aussi pour m'émanciper et travailler différemment pour Bastia.
Mais au lieu de vous émanciper, il fallait peut-être là s'effacer, parce que vous avez contribué à fracturer votre camp, la gauche.
J'ai fracturé, non, on était dans une image, il fallait incarner un projet, et je considérais, et je considère toujours, que j'étais le plus à même pour incarner ce renouvellement. Donc je suis fier de mon parcours avec ma suppléante Audrey Nigoli.
Et vous êtes toujours La République En Marche.
Oui.
Donc, je répète, vous avez passé un an côte à côte avec les nationalistes à la mairie de Bastia. Depuis, comment jugez-vous cette mandature? Très sévèrement, j'imagine.
Mais quelle est la question aujourd'hui? C'est en quoi le quotidien des Bastia a changé depuis 4 ans? Le constat, on le voit tous les jours dans la rue, sur la ville en plein immobilisme.
4 ans, il y a un an que vous avez partagé quand même.
Justement, on avait des ambitions et à un moment donné, on a assumé cette rupture parce qu'on voyait que Bastia n'était plus l'intérêt premier de cette majorité. Donc sur la question de la circulation, du stationnement, il y a un décrochage. Et en même temps, ce qu'on nous demande dans la rue, c'est de s'unir pour afficher une opposition crédible. Donc le constat et le bilan de cette mandature, il est mauvais parce qu'on est dans une gestion qui n'est pas à la hauteur. Et aussi, il y a une forme d'immobilisme, et je pense que la ville actuellement est sous tutelle de la majorité régionale. Parce qu'on le voit sur des projets très concrets, comme par exemple le parking de la gare ou le quai des Martyrs qui a subi des intempéries. La ville est tétanisée pour demander de l'aide à la région. Donc moi, dans ma gestion et dans la conception que j'ai d'un rôle du maire, je refuserais que Bastia soit sous tutelle.
Qu'est-ce qui pêche principalement dans cette gestion?
Il pêche un amateurisme. Une gestion qui est capricieuse et confiscatoire, parce que on n'est pas au bon niveau des responsabilités pour lesquelles on a. Et encore plus, quand il y a la collectivité unique qui s'est mise en place, depuis le 1er janvier, Bastia est déclassée. On n'est plus la capitale de l'Haute-Corse, tout simplement, parce que le département a disparu. Et on aurait pu demander des compensations, on aurait pu être impulsé une nouvelle dynamique. On a demandé l'opposition que tous les aspects économiques, aussi bien la Banque de France, l'INSEE, les sièges de l'ADEC, soient implantés à Bastia. Réponse de la mairie, on verra. C'est pas le rôle d'une mairie de dire ça. Le rôle d'une mairie, c'est de défendre d'abord sa population avant de faire de la politique.
Vous dites que les relations avec la CTC et la CDC maintenant sont un handicap, que le maire de Bastia a du mal à réclamer à Ajaccio de l'argent, des subventions, des investissements. Pourtant, le président de la CDC et Gilles Simeone, c'est l'ancien maire de Bastia qui siège toujours au sein du conseil municipal d'ailleurs.
Il y a les paroles.
En quoi est-ce un handicap?
Il y a les paroles, après il y a les actes. Moi je constate que sur les dossiers régionaux à Bastia, rien n'avance. Il y a la question du port, il y a la question maintenant des projets qui sont proposés à Bastia. La mairie est en incapacité d'avoir des échanges avec la région. C'est des propos qui sont tenus en conseil municipal. Moi je suis inquiet de cette relation qui est malsaine.
Et vous pensez que vous aurez de meilleures relations avec Gilles Simeone qu'en a aujourd'hui Pierre Savelli?
Sur des questions, si on travaille, oui. Moi je pense qu'il y a un problème actuellement, c'est le manque de travail. Et c'est ce qui fait que ça immobilise Bastia.
Quelle est votre ambition pour Bastia, Julien Morganti?
L'ambition, c'est que...
Vous allez écrire, votre bouquin sort dans une semaine ou 15 jours. Ça s'appellera Une histoire bastiaise, me semble-t-il. Hein.
L'ambition, c'est qu'on soit heureux, qu'on soit fier, qu'on ait par exemple un centre-ville dynamique, attractif. Là, actuellement, on bloque tous les projets à l'extérieur comme si ça allait sauver Bastia. Moi, j'ai une vision ouverte de cette ville. Et on a une histoire particulière. Le côté toscan, le côté maritime, fait qu'on doit avoir une ambition. C'est pour ça que le rôle de la CAB est important, c'est pour parler aux autres territoires. Cette entente bastiaise, elle a un sens pour être au bon niveau. Là, actuellement, on vivote, on gère, et la routine dans une gestion, c'est mortel.
L'ambition, c'est un nouveau port ?
L'ambition, c'est une nouvelle ville, c'est surtout la reconversion du port actuel. Actuellement, on a un bassin qui est en dérogation, qui est dangereux, et l'idée de convertir le port actuel, ça permet de faire de la haute plaisance, ça permet de faire de la croisière, de récupérer les terre-pleins pour faire un nouveau quartier, et par conséquent, oui, un nouveau port.
Pour renverser la majorité nationaliste en place, ce sera compliqué, il vous faudra forcément nouer des alliances. Avez-vous déjà entamé des discussions, et avec qui ?
Depuis le mois de juillet dernier, l'opposition au conseil municipal est unie et travaille sur des positions communes. Et je pense que c'était une attente forte des Bastiais. Mais en même temps, il faut travailler sur une nouvelle génération. Et il y a quatre grandes axes qui peuvent être déclinées. Il y a libérer les énergies, parce qu'actuellement, les forces, la matière première à Bastia part. Et ça, c'est un problème. Après, innover. Parce qu'on a la bonne taille à Bastia pour être un territoire d'expérimentation et pour récupérer des crédits en matière d'école, en matière de transport, en matière de déchets. Après, il y a respecter, c'est-à-dire en termes d'exemplarité. Je pense que pour être crédible, il faut être exemplaire. Et un dernier point, c'est protéger notamment les plus défavorisés qui sont exclus de la mondialisation.
Quatre points, mais vous n'avez pas répondu à ma question totalement. Vous discutez avec Chantzou Carré, avec Francis Réolage, et est-ce que vous discutez également avec la droite ?
On discute avec tout le monde, et notamment avec des nouvelles personnes, des nouveaux visages que vous verrez arriver en politique. Je le répète,
par exemple,
je souhaite que 2020... ne soit pas la répétition de 2014.
Vous pourriez vous retrouver autour d'un projet tout sauf les nationalistes.
Ça sera tout pour Bastia.
Tout pour Bastia, mais sans les nationalistes.
Tout pour Bastia. Moi, je considère qu'actuellement, qu'il soit nationaliste ou pas, c'est pas le sujet. La défense de Bastia n'est plus assurée. Et c'est le rôle premier d'un maire. Le maire, il doit être un facilitateur. Il doit faire le lien entre les riverains, les commerçants, les gens du centre, les gens de la périphérie. Et moi, c'est la conception que j'ai du rôle d'un maire. Pas d'exclure.
RCFM, Bintiminoudi, l'émission politique.
Dernière partie, Julien Morgan, on ouvre à présent une page nationale à l'avant-veille du mouvement des Gilets jaunes. Le militant La République En Marche que vous êtes, comprend-il cette colère contre la cherté du prix des carburants et comprend-il ce mouvement ?
Oui, effectivement, il y a une contestation qu'il faut entendre. Mais en même temps, je suis toujours méfiant des récupérations politiques, surtout quand ça vient des extrêmes. Et sur la question notamment des carburants et de l'essence, on est dans une transition écologique qu'il faut faire. Donc en même temps, il faut expliquer, il faut faire de la pédagogie. Et les mesures qui sont annoncées, notamment de manière très concrète sur la prime à la reconversion et différentes mesures, vont dans le bon sens. Il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, il y a 48 000 personnes qui meurent de la pollution. Et ce qui se passe en Corse, on a la double peine. Il y a le phénomène du collectif qui s'est monté contre la charte des carburants, fait qu'on a un monopole qui gère les dépôts pétroliers, on n'a pas de concurrence, et on a des écarts jusqu'à 20 centimes. Ça, c'est un véritable scandale. Et moi, je remercie ce collectif, qui est vraiment un lanceur d'alerte sur ce sujet, parce qu'on doit avoir des explications. Qu'est-ce qui se passe en matière de distribution de carburant en Corse ? Aujourd'hui, dans un quotidien local, on a la liste des stations-service les moins chères de la région PACA. Elles sont toutes dans les grandes surfaces. Pourquoi en Corse c'est interdit ?
C'est interdit parce que pour l'instant, les patrons de grandes surfaces ne veulent pas.
Non, parce qu'il y a un problème de monopole de distribution d'une société qui ne publie plus ses comptes. Donc le collectif, moi je soutiens fortement cette initiative, demande de la transparence.
Vous descendrez dans la rue samedi auprès des Gilets jaunes ?
Non, je pense que ce n'est pas la place d'un élu, notamment en matière de récupération. Mais le message fait qu'il faut entendre cette crise, il faut entendre ces tensions, notamment en matière sociale et en matière économique. Et le rôle d'un élu, c'est d'apporter justement des réponses.
Le péché originel de ce gouvernement n'est-il pas d'avoir supprimé en début de mandat l'ISF, l'impôt solidarité sur la fortune ? D'où ce sentiment aujourd'hui d'injustice quand on augmente des taxes, notamment celles du carburant, qui touchent tout le monde, mais qui sont plus durement ressenties par les plus défavorisés. Ça grève davantage leur budget, ça se comprend assez facilement.
C'est pour ça qu'aujourd'hui, on rentre dans le dur des réformes. Elles sont nécessaires pour moderniser l'économie, pour produire mieux, mais aussi pour redistribuer mieux. C'est le principe même de la solidarité. Donc effectivement, il y a eu des mesures dans un sens. Maintenant, la redistribution doit être importante. Et c'est le sens des mesures qui ont été annoncées, notamment ce matin, par exemple, sur les carburants.
Mais sur ces premières mesures, vous les partagez, l'homme de gauche que vous êtes ?
Je partage l'idée que pour redistribuer, il faut produire. Donc à un moment donné, il faut libérer l'énergie, il faut libérer de la puissance, notamment financière, qui fait qu'à un moment donné, et ça c'est le rôle de la puissance publique et c'est le rôle de l'élu.
C'est la fameuse théorie du ruissellement, mais ça ruisselle pas beaucoup aujourd'hui. Mais la preuve, on le voit dans la rue, ou on le verra plutôt dans la rue samedi.
Au-delà de cet aspect sur l'essence, c'est la question du pouvoir d'achat, et elle est centrale, mais il n'y a rien de pire aujourd'hui quand on paye un impôt qui ne soit pas compris. Au-delà de l'aspect du montant, c'est pas ça le sujet, c'est à quoi servent nos impôts. Aujourd'hui, on a une école qui est gratuite, on a des équipements publics qui sont accessibles, notamment sur la question de la santé, mais on voit qu'il y a une telle dégradation qu'à un moment donné, il faut trouver les moyens pour payer ces services publics. On est très attaché, notamment dans un territoire comme le nôtre.
Donc, d'où, selon vous, la suppression de l'ISF, 4 milliards d'euros perdus ?
L'ISF était un impôt qui coûtait plus qu'il ne rapportait. Ça, pour moi, pour le pragmatique que je suis, ça pose problème.
C'est pas évident, il rapportait près de 4 milliards d'euros.
Ça pose problème dans la collecte. Moi, la stratégie, c'est quel service public on veut pour notre pays et notamment pour notre région.
Donc, toujours très pro-Macron.
Je défends les idées parce que...
18 mois après, vous n'êtes pas déçu.
C'est là où je suis cohérent par rapport au début de l'entretien. Et il faut pas oublier qu'est-ce qu'on avait en face. On avait des extrêmes, on avait des populistes, donc moi j'ai préféré faire ce choix de la cohérence et de la crédibilité.
Choix par défaut ?
Non, justement, parce que je l'ai soutenu tout de suite.
Ce sera le mot de la fin, Julien Morgante. Merci d'avoir été notre invité.
RCFM, Binti Minoudi, l'émission politique.
Voilà, Binti Minoudi avec Julien Morgante, c'est terminé. Une émission à écouter ou réécouter sur notre site bleu-rcfm.fr. La semaine prochaine, même jour, même heure, nous parlerons Europe avec Rocco Garobi, candidat nationaliste aux européennes du 26 mai 2019. Dans un instant, vous retrouvez Michael Andréani.